Vous écoutez, on lit pour vous.
Une identité ne devrait jamais être cloisonnée. Un texte de Samael Grant, paru le 14 août 2024 dans la presse. Samael Grant est élève au cégep de Matane en sciences humaines et récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Plutôt que de ressasser les mêmes arguments stériles, permettez-moi de vous raconter une histoire qui montre qu'un autre chemin est possible. Dans une école secondaire en région, nous avons choisi de faire confiance aux élèves plutôt que de les contraindre. Nous avons créé un espace où chacun peut se sentir respecté et inclus, sans avoir à se conformer à des normes rigides. Ce qui s'est passé là-bas pourrait bien servir d'exemple à tout le Québec. Tout a commencé avec une campagne électorale étudiante passionnée. Un parlement, composé en majorité de jeunes femmes, a hérité de la responsabilité de tenir ses promesses. Parmi celles-ci, une idée a rapidement émergé comme centrale: offrir des toilettes inclusives, ouvertes à tous. Certains élèves voulaient élargir l'agenda social pour le bien-être de tous, tandis que d'autres préféraient la simplicité en suggérant de rendre les toilettes du personnel, déjà neutre, accessibles aux élèves concernés. Face à ce dilemme, les élèves élus ont choisi la voie du dialogue et de l'inclusion. Plutôt que de forcer une décision qui aurait pu enterrer une promesse cruciale, ils ont décidé de consulter l'ensemble de leurs camarades, ouvrant ainsi la porte à une conversation authentique. Trois options ont été proposées: conserver toutes les toilettes genrées, les transformer en espaces neutres, ou opter pour un compromis, soit des toilettes genrées au rez-de-chaussée et des toilettes neutres à l'étage. Une leçon de démocratie. Pendant 2 semaines, ce n'était pas seulement une campagne électorale qui se déroulait, mais une véritable leçon de démocratie. Les jeunes, soutenus par certains membres du personnel, ont pris le temps de réfléchir, d'échanger et de peser les implications de chaque option. Le vote qui a suivi a livré un message clair. 50% d'entre eux ont choisi le compromis. Le projet a été adopté, puis mis en œuvre avec succès. Cette histoire montre qu'il est possible de faire autrement, d'agir avec ouverture et humanité, loin des rigidités imposées par des directives dogmatiques. En tant que parents, citoyens et éducateurs, ne devrions-nous pas faire confiance à cette nouvelle génération qui a prouvé qu'elle est capable de prendre des décisions éclairées? Plutôt que de choisir la confrontation, privilégions l'apprentissage, le respect et la démocratie. Ne laissons pas les demandes légitimes des minorités LGBTQIA+ être balayées du revers de la main par une directive ministérielle. C'est notre responsabilité de veiller à ce que notre système éducatif reflète les valeurs d'inclusion et de justice qui nous sont chères. La question des toilettes à genre neutre n'est pas seulement une question pratique. Elle s'inscrit dans un débat plus vaste sur les droits de la personne et la dignité. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est condamner notre société à stagner, là où elle pourrait progresser vers plus d'équité et de dignité pour tous. C'était « Une identité ne devrait jamais être cloisonnée », un texte de Samael Grant, paru le 14 août 2024 dans la presse.
Revenir au monde réel. Un texte de Normand Baillargeon, paru le 17 août 2024 dans Le Devoir. Après la pénurie d'enseignants qui perdure et qui est, à mon avis, un véritable drame national, Un des grands et urgents défis de cette rentrée scolaire concerne la gestion des cellulaires et des écrans à l'école. Je dis à l'école, mais cela vaut aussi dans les établissements d'enseignement supérieur, comme on va le voir. Ce que l'on sait. Les travaux du psychologue américain Jonathan Haidt ont jeté sur toute cette question d'importants et désormais incontournables éclairages. La génération Z, en gros les personnes nées après 1995 et avant 2012, vit une inédite et importante crise de la santé mentale, en partie causée par l'utilisation généralisée des cellulaires et par l'avènement des médias sociaux et des jeux en ligne. Toutes mises ensemble, ces technologies créent de la dépendance et provoquent des effets comme de l'anxiété, de la dépression et autres problèmes encore. Ajoutons à tout cela, comme le fait Haidt, des parents surprotecteurs, on les appelle parfois les parents hélicoptères, et nous nous retrouvons devant ce que Haidt appelle un moment de grand recablage, de grande transformation de l'enfance. Les données crédibles et les recherches produites depuis des années convergent fortement avec celles qu'il citait pour appuyer ses idées. En voici deux autres, toutes récentes. De nouvelles pièces au dossier. La première est parue dans la revue de médecine JAMA Pediatrics. On y montre que l'utilisation de la tablette par l'enfant de 3 ans et demi est associé à davantage d'expressions de colère et de frustration lorsqu'il atteint 4 ans et demi, et que la prédisposition de l'enfant à la colère et ou frustration à l'âge de 4 ans et demi est associée à une plus grande utilisation des tablettes à l'âge de 5 ans et demi. Les auteurs écrivent « Ces résultats suggère que l'utilisation de tablettes dans la petite enfance peut contribuer à un cycle délétère pour la régulation émotionnelle. Parlez-en à votre ami qui enseigne au préscolaire ou au primaire, qui en aura sans doute beaucoup à vous raconter, mais surtout, parlez-en au couple qui vient d'avoir un bébé. La deuxième provient de Science Direct et porte sur des jeunes du secondaire et la lecture. On y compare la lecture sur papier et celle sur écran. Je vous passe les détails et ne dis rien de la belle technologie oculaire utilisée dans ce travail, mais les auteurs concluent que l'un des principaux résultats est que la lecture à l'écran entraîne un traitement plus superficiel et peut entraver la compréhension de ce qui est lu. Que faire? Haidt et d'autres suggère des solutions à appliquer à la maison et à l'école. Mais avant de les rappeler, un mot sur les effets du monde virtuel au niveau supérieur. Car ces effets ne se font pas sentir qu'à l'école et sur les enfants. Écrire à la main ou taper ses notes de cours. Depuis une décennie, les recherches comparant chez les étudiants universitaires la prise de notes de cours à la main avec le recours à l'ordinateur pour ce faire se sont multipliées. Une recherche parue en juillet 2024 dans Springer Link fait la synthèse de ce qu'elles nous apprennent. À retenir, la prise et la révision de notes manuscrites conduisent à de meilleurs résultats. Les notes manuscrites sont plus utiles pour étudier et mémoriser. Que faire? Haidt a suggéré 4 grandes pistes d'action. Ce sont 1. Pas de téléphone intelligent avant le secondaire. 2. Pas de médias sociaux avant 16 ans. 3. Plus, beaucoup plus de jeux dans le monde réel sans surveillance, de liberté et de possibilité d'explorer pour les enfants. 4. Enfin, et surtout pour notre propos, des écoles sans cellulaire. Des écoles, pas seulement des classes. Il faut savoir qu'au Québec, depuis janvier 2024, le cellulaire est interdit dans les salles de classe, sauf pour usage pédagogique demandé par l'enseignant. Cette manière de faire est une des stratégies dites d'usage limité du cellulaire. D'autres existent et demandent par exemple que les élèves, en entrant en classe, déposent leur cellulaire dans un support prévu pour cela et le reprennent en sortant. Une autre et de ne permettre l'utilisation du cellulaire que dans des zones désignées et à des moments précis. Une autre encore est d'utiliser des pochettes verrouillées appelées « yonder ». Le téléphone y est déposé et est inutilisable tant que la pochette n'est pas débloquée. Mais on est loin d'une école sans cellulaire. Le ministre y songerait, devant le peu d'impact des directives en cours. Comment faire? Une école sans cellulaire? Ce n'est certes pas facile, mais des solutions sont avancées et de plus en plus pratiquées dans divers pays. On peut, par exemple, décider de commencer en faisant de certains jours des journées sans téléphone à l'école. On peut installer des casiers dans lesquels tous les téléphones doivent être déposés en entrant à l'école. On peut accompagner ces directives de programmes d'éducation sur les dangers des cellulaires et des écrans, sur la sécurité en ligne et sur d'autres sujets semblables. Je vais surveiller de près ce qui va se passer chez nous. En particulier, à l'école secondaire d'Oka, du Centre de services scolaires des Mille-Îles, où une résolution a été adoptée par le conseil d'établissement qui interdit, dès septembre, l'utilisation du téléphone cellulaire à l'intérieur et sur le terrain de l'école. À suivre. Bonne rentrée. C'était « Revenir au monde réel », un texte de Normand Baillargeon, paru le 17 août 2024 dans « Le Devoir ».
Montréal, la ville à 20 km/h. Un texte d'Alain Mekena paru le 8 juillet 2024 dans Le Devoir. C'est officiel. La planète est revenue à ses habitudes de mobilité d'avant la pandémie. Autrement dit, la congestion routière est pire que jamais partout dans le monde. Cela inclut la grande région de Montréal. À tel point, en fait, que la vitesse moyenne au cœur de la métropole est actuellement la même qu'à l'époque du transport à cheval. Au centre-ville de Montréal, la vitesse moyenne en 2023 a été de 20 km/h, selon la plus récente édition d'un rapport annuel sur l'état de la circulation routière dans le monde réalisé par la société INRIX. INRIX est l'un des principaux fournisseurs de données routières en temps réel. Le genre de données qui sont utilisées par des applications de navigation comme Google Maps sur mobile et comme celles qui se trouvent installées d'office dans le tableau de bord de plusieurs automobiles vendus chez nous. GM, Ford, Volvo et d'autres encore utilisent notamment ces données pour vous guider à destination le plus rapidement possible. Et par « rapidement », on veut dire au moins aussi vite qu'à l'époque où on se déplaçait à cheval. En effet, 20 km/h, c'était la vitesse moyenne de déplacement il y a 20 ans. À cette époque, les experts en mobilité urbaine rappelaient que c'était aussi la vitesse atteinte par les gens qui se déplaçaient quand le moyen de transport le plus pratique était le cheval. Il y a 20 ans, on promettait de régler ce problème en synchronisant les feux de circulation partout autour du centre-ville de Montréal. Le matin, ils accéléreraient l'arrivée des travailleurs dans les tours de bureaux. Le soir, ils les aideraient à fuir le centre-ville. Ce projet n'a pas été réalisé à l'époque. Il a été relancé il y a une dizaine d'années. On l'attend toujours. Ces jours-ci, aux heures de pointe, ce sont des agents de police qui ont remplacé les feux de circulation sur plusieurs artères de la grande région de Montréal. Ils n'ont aucune synchronisation entre eux. En fait, les agents les plus rusés stoppent la circulation quand la file déborde sur l'intersection précédente. Ça leur permet de donner des contraventions aux automobilistes qui ne tentent pourtant que de suivre les indications, parfois contradictoires, reçues en même temps de deux agents différents. Peut-être qu'on a juste mal compris ce que les élus de 2004 voulaient dire quand ils parlaient de « feu de circulation intelligent ». L'effet pervers du télétravail. Durant la pandémie, on pensait que le télétravail allait réduire de façon permanente la congestion routière en évitant les déplacements à une partie des employés, des travailleurs de bureau, ceux qui jonglent avec de l'information intangible qu'ils peuvent facilement manipuler, peu importe où ils se trouvent. Or, il semble que ce ne soit pas le cas, car même les télétravailleurs ont à se déplacer durant la journée. Ils le font à d'autres heures ou adoptent un horaire hybride mi-bureau, mi-maison. Le résultat est que l'heure de pointe s'étire. Plutôt qu'un rush de 7h à 9h, puis de 16h à 18h, on constate désormais de la congestion jusqu'à 10h ou à partir de 15h. Les données d'INRIX indiquent qu'aux États-Unis, il y a désormais pratiquement autant de déplacements qui s'effectuent à midi dans les grands centres urbains qu'on en dénombre à partir de 17h. La grande région de Montréal a grandi. La bonne nouvelle, si tant est que ça en soit une, est que la vitesse moyenne autour de Montréal est de 60 km/h, quand ce n'est pas l'heure de pointe. Vous aurez compris que cela inclut la vitesse sur autoroute, ce qui fait monter la moyenne. Elle baisse à 37 km/h en heure de pointe, y compris sur autoroute. C'est une vitesse qui est facilement atteignable à vélo, vous diront les adeptes de la petite reine, un argument en faveur d'un transport plus actif. De plus, et c'est la moins bonne nouvelle, l'ampleur de la congestion automobile autour de Montréal a atteint des niveaux sans précédent en 2023. La grande région de Montréal a grandi, pour ainsi dire, dans toutes les directions. Les bouchons ont débordé au-delà de Belleuil, sur la rive sud, l'an dernier, alors qu'en 2022, ils s'arrêtaient 15 minutes plus tôt près de Sainte-Julie. Au nord, les bouchons s'étendent plus loin qu'à Blainville, plutôt que de se limiter à Sainte-Thérèse. L'Assomption, au lieu de Repentigny à l'est, est bien au-delà du pont de l'île aux Tourtes à l'ouest. Notez que ce ne sont là que des données compilées quotidiennement puis exprimées par INRIX sur une base annuelle. La congestion est plus dense certains jours et plus calme d'autres jours, mais, de façon générale, elle s'étend toujours un peu plus, chaque année. C'était vrai avant la demi-fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et du pont de l'île aux Tourtes. Ce l'est encore plus en ce moment. On ne sait pas comment ce sera quand les ponts et les tunnels seront réparés, mais cela envoie un signal clair aux sociétés de transport collectif de la grande région de Montréal. Les régions que vous desservez et les zones tarifaires que vous avez tracées sont trop morcelées et trop étroites pour tenir compte de tous ces besoins en mobilité. La demande s'étend aujourd'hui sur un territoire beaucoup plus grand qu'il y a 5 ans. Elle est aussi plus élevée durant toute la journée, et pas seulement le matin et le soir. C'était « Montréal, la ville à 20 km/h », un texte d'Alain Mekena, paru le 8 juillet 2024 dans Le Devoir.
Un appel à témoignage sur la transition du village de l'Ouest vers l'Est. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 28 août 2024 dans le magazine Fugue. Parti d'une recherche aux archives gays du Québec, AGQ, François Bellemare, qui est l'auteur, entre autres, de « La renaissance de l'interlope », les éditions Sémaphore 2022, lance un appel aux gens qui ont vécu la transition du village de l'Ouest vers celui de l'Est dans la fin des années 1970 et le début des années 1980. Avec le concours des archives, François Bellemare aimerait coucher sur vidéo les témoignages de personnes qui ont vécu aussi des événements comme la descente du bar Trux, qui a mené, tranquillement, au déménagement du village là où il se trouve en ce moment. Une éventuelle exposition sur cette période historique de la communauté LGBTQ+, aura lieu prochainement dans les locaux des AGQ. Le 21 octobre 1977, la police effectue une violente descente au bar Trux situé sur la rue Stanley. 200 hommes gays y sont arrêtés manu militari. La plupart sont accusés de s'être trouvés dans une maison de débauche. Une cinquantaine de policiers sont lourdement armés. La police a utilisé des mitraillettes empruntées à l'armée canadienne et qui dataient de la Deuxième Guerre mondiale, souligne François Bellemare. C'est dire comment la police de Montréal traitait la communauté LGBT à ce moment-là et la voyait telle une menace. À l'époque, l'Association pour les droits des gays du Québec, ADGQ, monte aux barricades pour dénoncer ce raid policier. Une manifestation est vite organisée au centre-ville et plus de 2000 personnes y participeront pour dénoncer la répression dont fait l'objet la communauté gay à l'époque. Et ce n'est pas la seule descente de police effectuée dans ces années-là contre des établissements de la communauté. Il y a eu aussi la descente du BODS dans la nuit du 1er au 2 juin 1984, soit quelques semaines à peine après la création du magazine Fugue, alors que 188 personnes seront arrêtées dans ce bar de la rue Stanley également. Le lendemain, plus de 600 personnes participent à une nouvelle manifestation contre la répression policière. François Bellemare a mené des recherches aux archives pour comprendre comment s'est effectué ce déplacement de l'Ouest, où se trouvaient la plupart des clubs de l'époque, qui logeaient dans des édifices sur les rues Stanley, Peel, Mackay, etc. Le Limelight, le Jardin, le Trux, le Buds, etc. Vers l'Est, ce qui était connu à ce moment-là comme le quartier Saint-Jacques, du même nom que le district municipal. Il y a ici plusieurs étapes, évoque François Bellemare. D'abord, il y a les répressions policières et sociales envers la communauté LGBTQ+, et qui ont duré au moins 8 décennies jusqu'au 20e siècle. Deuxièmement, face à la répression, il y a la montée d'associations militantes homosexuelles réclamant plus de droits et la nécessité d'avoir des lieux sécuritaires d'homosocialisation, comme on dit en espagnol. Mais face à ce militantisme, il y a en retour une nouvelle répression qui s'exerce. L'auteur rappelle ici que la fin du village de l'Ouest clôturait tout le chapitre des cabarets où on retrouvait des spectacles, de la musique, des performances, etc. La communauté s'y retrouvait durant plusieurs décennies parce que c'était aussi des lieux de rencontre et ils ont subsisté longtemps. Même depuis l'époque de la prohibition aux États-Unis, où l'alcool était interdit, Montréal était devenu l'Eldorado, autant pour les artistes que pour les touristes, dit-il. Si la plupart des bars et clubs se trouvaient dans l'ouest du centre-ville, les loyers commerciaux étaient bien chers, déjà à cette époque-là. D'un autre côté, le quartier Saint-Jacques était en déperdition, note François Bellemare. Les anciens commerces se mouraient. Mais une chose va changer dans ce secteur-là. C'est l'arrivée de l'UQAM, une université plus à gauche, plus ouverte aux réalités gays et lesbiennes, et qui s'installe dans le quartier, continue-t-il. Il y avait dans le quartier beaucoup de locaux disponibles et bon marché. Au début, sans qu'il y ait quoi que ce soit de planifié et de façon réellement spontanée, quelques bars gays et peu d'établissements lesbiens vont aller vers l'Est, vers ce quartier-là, et occuper des locaux vides. Priap sera un des premiers à s'y loger, lui qui va souffler ses 50 bougies cette année. Des restaurants, des clubs de danseurs, des établissements comme La Boîte en haut, d'Yvon Jussaume, 1975 à 1993, viennent tranquillement ouvrir leurs portes. Le mot s'est passé de venir dans l'Est. Les magazines Attitude et Ça s'attrape, un média lesbien, vont afficher de petits plans du quartier, avec les rues et les commerces qu'on y retrouve. Dans une éventuelle exposition, on va montrer ces plans agrandis de ce qui sera appelé le village de l'Est. Cette exposition sera une occasion pour les vieilles générations de se remémorer une partie de leur jeunesse et pour les jeunes de connaître ce que cela a été, le village, à ses tout débuts. Note François Bellemare, qui est aussi l'auteur de Christiania, une cité au cœur du Danemark, édition Angalé, 2021. Manifestement, de l'avis même de ce passionné d'histoire, les AGQ regorgent de matériel imprimé sur le début du village. Mais on aimerait aussi que des gens puissent témoigner de cette époque-là, de ce glissement de l'ouest vers l'est. Comment a-t-il été vécu? Les gens ont-ils été des clients des clubs et cabarets dans ces deux parties de la ville? Y a-t-il eu des hommes qui ont subi cette violence policière? Ont-ils eux-mêmes été des commerçants, peut-être? On veut que les gens nous contactent, qu'ils puissent témoigner dans de courtes vidéos qui resteront aux archives et qui pourront être consultées dans le futur, explique-t-il. Ce sera aussi en complément à l'exposition, mais il n'y a pas d'échéance de manière précise. Toutefois, le temps presse, car certains ont probablement déjà atteint un âge vénérable, alors leurs témoignages sur cette période sont très précieux. On pourra tout simplement contacter les Archives gays du Québec, 514-287-9987. Les archives appuient ce projet parce qu'ils mettent en évidence une partie de tout le travail effectué depuis 40 ans à recueillir de la documentation sur le village sous plusieurs formes, village dont l'histoire s'écrit depuis plusieurs décennies. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir cette exposition éventuellement dans nos locaux et de faire connaître ainsi un pan de l'histoire du village. De commenter Pierre Pilote, le coordonnateur des AGQ. Info Archives gays du Québec, 1000 rue Atatéken, bureau 201 à Montréal. Site web agq.qc.ca. Courriel info@agq.qc.ca. C'était un appel à témoignage sur la transition du village de l'ouest vers l'est. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 28 août 2024 dans le magazine Fugue.